Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle a pris hier vendredi les 11 affaires sous examen délibéré. Elle a promis de rendre son verdict lundi 30 octobre prochain. Vous subissez une agression qui pèse lourd sur le déroulement de la vie normale du pays et en particulier quand il va dans les élections. Tels sont les propos de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon en séjour à Kinshasa. Des propos qu'il a tenus vendredi au cours d'une réception à l'Assemblée nationale. L'invité de ce journal est l'officier du bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO. Le major Hassan Keïra parle de la collaboration entre les casques bleus, les FRDC et les autorités locales dans les actions visant à contribuer à la protection des civils dans l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Merci d'être avec nous et bienvenue à l'écoute de ce journal. Alain Goy assure la mise en onde et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Il est 8h à Kinshasa, 9h à Uvira, au Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, bonjour. Contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle a pris les 11 affaires sous examen en délibéré. Elle promet de rendre son verdict le lundi 30 octobre prochain. À son audience publique hier vendredi à Kinshasa, elle a immédiatement rejeté la requête de M. Tivoadi Junior pour défaut de qualité. Elle a statué sur d'autres affaires sur lesquelles les avocats ont plaidé. D'abord, l'avocat du candidat Seth Kikuni, qui a demandé à la Cour d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi, qui violerait l'immuabilité de nom en droit. Nico Mayengele explique ici le motif de l'invalidation sollicitée.
En 2018, la personne qui a été proclamée président, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, la personne qui vient solliciter le renouvellement de son premier mandat devient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose le principe de l'immuabilité du nom, c'est-à-dire personne ne peut changer son nom, ne peut en intervertir l'ordre, encore moins en modifier les éléments. Curieusement, les avocats de M. Félix Antoine ont déclaré devant la cour que Félix est au-dessus de la loi, ça veut dire il peut changer son nom comme il veut. Sur le plan institutionnel, Félix prépare un coup, c'est-à-dire si on retient sa candidature comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, Félix dira le mandat que j'ai eu de 2023 à 2028, c'était sous l'identité de Félix Antoine. Maintenant, je dois chercher un deuxième mandat comme Félix Antoine Tshilombo, le troisième Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
En réaction, l'avocat de Félix Tshisekedi rejette les accusations de la partie Seth Kikuni. Selon Jean-Claude Chilumbay, le candidat Tshisekedi ne s'est pas présenté sous une identité autre que celle figurant sur sa carte d'électeur. Ce serait lui faire un procès de mauvaises intentions.
Ce sont des insinuations. En fait, nous avons été devant la cour, nous y avons présenté nos moyens de défense et que bien évidemment, le requérant s'est réalisé à l'avance qu'il s'est perdu dans ses appréciations. Nous attendons que la cour se prononce là-dessus.
Bon, selon les avocats de Seth Kikuni, ils disent que votre candidat Tshisekedi dit qu'il est au-dessus de la loi. Il peut porter n'importe quel.
Ce n'est pas ça. Nous avons été devant la cour avec les textes, avec les lois qui régissent la République. Maintenant que nous y avons présenté une version contraire pour démontrer qu'il s'est perdu et qu'il est dans la désorientation de la population et qu'il a tenté même de désorienter les juges. Les choses sont désormais claires et clarifiées. La cour va devoir se prononcer.
Et comment vous l'appelez son nom?
Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine.
Mais c'est pas ça qui a été retenu à la CENI.
Effectivement, cela qui est retenu à la CENI.
Dans son avis émis pour rejeter cette requête, le ministère public a relevé contre le candidat Seth Kikuni le non-respect du délai. Au lieu de déposer sa requête 48 heures après la publication de la liste des candidatures provisoires à l'élection présidentielle, il aurait fait au-delà du délai prévu. Un autre moyen soulevé par le procureur général est l'absence de pièces à conviction, d'après la défense de Félix Tshisekedi. Dans ce même cadre, les dernières affaires examinées par la Cour constitutionnelle en rapport avec les contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, ce sont les requêtes de M. Tivoadi rejetées sur le champ et celles du candidat président Noël Tchiani contre la candidature de Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République. Le contestataire de la candidature de Katumbi dit avoir produit des éléments qui seront étudiés par la Cour et espère qu'elle va invalider la candidature contestée pour raison de nationalité non congolaise, d'après lui. Quels sont ces éléments produits sous la nationalité de Katumbi? S'agit-il des originaux? Suivez la réponse de Noël Tchani.
La Cour nous a entendus. Nous avons avancé comme argument le défaut de nationalité congolaise. Et
est-ce que vous avez produit quelques documents attestant que Katumbi n'est pas...
Nous avons produit les éléments, mais aussi ce sont des faits de notoriété publique. On a mis tous ces éléments à la disposition donc de la Cour. Et je pense que la Cour, je ne vais pas aller dans les détails, donc je voudrais laisser cela aux juristes. Et on n'a pas avancé que notre requête était infondée. Par conséquent, quand il sera étudié dans tout ce que nous faisons, nous défendons le drapeau de la RDC.
Noël Tchani n'a rien produit d'autre contre la nationalité congolaise de Moïse Katumbi qu'un article de Jeune Afrique, allègue l'avocat du président d'Ensemble pour la République. Selon Maître Hervé Diakessé, son client dispose d'un certificat de nationalité congolaise délivré en bonne et due forme par des autorités compétentes et qui est le seul document valable attestant la nationalité en droit congolais. On l'écoute.
S'agissant de l'affaire Noël Tchani, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapwe. À l'appui de ces prétentions, il a produit un article de Jeune Afrique et il a dit que de toute façon, c'est des notoriétés publiques que Moïse Katumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katumbi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise. Par contre, la CENI a dit devant la Cour constitutionnelle qu'au regard de l'article 104 de la loi électorale, les dossiers de Moïse Katumbi Tchapwe étaient complets, en ce d'autant plus qu'y était versé l'original de son certificat de nationalité qui n'a pas été contesté.
C'est un dossier signé Jeff Ngoy. Vous subissez une agression qui pèse lourd sur le déroulement de la vie normale du pays, et en particulier quand il va dans les élections. Tels sont les propos de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon en séjour à Kinshasa. Il s'est exprimé hier vendredi en présence de quelques députés conduits par le deuxième vice-président de la Chambre basse. Accompagné d'une délégation de parlementaires français, Jean-Luc Mélenchon s'insurge contre l'agression rwandaise et plaide pour une solidarité internationale pour aider la RDC à maintenir l'intangibilité de ses frontières. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Au cours d'un dîner organisé dans la salle de banquet en l'honneur de la délégation des parlementaires français, Jean-Luc Mélenchon dénonce l'agression rwandaise et plaide pour des sanctions contre l'agresseur.
On ne peut pas avoir des principes qui s'appliquent à l'Ukraine contre la Russie et ne pas avoir les mêmes à propos de la RDC contre son envahisseur rwandais. Donc les Congolais ont raison de demander des sanctions. Et s'ils ne les obtiennent pas, ils sont en droit alors de se poser des questions sur la légitimité des sanctions qui par contre frappent la Russie. Pourquoi n'y en a-t-il pas à propos de la RDC? Je vous avoue, je partage leur perplexité.
L'opposant français souligne qu'une action dans ce sens a déjà été initiée par le groupe des députés de la France insoumise qui l'accompagne.
Les parlementaires insoumis qui se trouvent ici ont été les auteurs d'une résolution qui prenait parti pour la République démocratique du Congo, en affirmant la fraternité, en condamnant les agissements du voisin rwandais et en demandant à la France de se positionner ouvertement et clairement. Une action a eu lieu également au Parlement européen et le Parlement européen a pris position clairement en désignant le Rwanda comme responsable.
Pour Jean-Luc Mélenchon, cette résolution a déjà été signée par 75 députés et plus et espère obtenir les sanctions contre le Rwanda.
Au Nord Kivu, le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo, en déplacement à Goma, plaide pour le respect du droit international humanitaire en faveur des populations en détresse. Isaac Kibira a fait cet appel jeudi dernier au lendemain de l'occupation de la cité de Bambo et ses environs par les rebelles du M23. Il affirme que pendant que les combats se poursuivent dans la zone, plusieurs civils sont menacés aussi bien dans le village que dans leurs milliers de réfugiés. Ces propos ont été recueillis par Bernard Nyangi.
Pendant ces affrontements, une bombe est tombée là où il y avait des gens. Alors, ces deux personnes ont perdu la vie et des autres blessés. Le soir, il y a un pillage systématique de toutes les boutiques et kiosques de l'agglomération de Bambou. Ils ont continué à larguer des bombes du côté nord de l'agglomération de Bambou et un peu partout dans les champs, là où les populations avaient pris fuite. Et malheureusement, des fillettes sont blessées par une bombe du côté Bukungu. Nous demandons que les M23 cessent de larguer des bombes dans les champs, dans les brousses, là où la population a pris fuite pour aller trouver refuge là-bas. Et nous demandons que le gouvernement puisse songer à ces déplacés qui sont partis sans rien, à se vêtir, sans rien aussi à manger pour que ces gens-là soient encadrés et voir comment ils peuvent être reçus par ces humanitaires. Et que le gouvernement cherche le plus tôt possible une solution durable à ces problèmes, car la population de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi traverse les moments difficiles là où elle est en train de ressailler.
Toute la journée, hier vendredi, des violents affrontements ont opposé dans la zone de Bambo les rebelles du M23 au FRDC et la coalition des groupes armés. Au moins 3 autres enfants ont été blessés et évacués vers l'hôpital. Dans la ville de Beni, 110 civils ex-otages des ADF ont été remis hier vendredi par les FRDC aux organisations de la société civile de Beni et Mambasa en Ituri. Ils s'étaient échappés des mains de leurs ravisseurs depuis 45 jours et par vagues à la suite des opérations militaires menées par les armées congolaises et ougandaises dans la région d'Endalia et Mambelenga. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
Ces ex-otages avaient été enlevés par les EDF dans leurs champs en Dalia et Mambelenga, dans le territoire d'Irumu en Ituri. Certains y ont passé un mois en captivité, d'autres 3 mois. Il y a un mois et demi, ils ont réussi à s'échapper par petits groupes à la suite des opérations militaires conjointes menées par les FARDC et l'UPDF contre les EDF en Dalia et Mambelenga. Le coordonnateur de la société civile de Mambasa, Bernard Oba Babaya, exprime sa gratitude à l'armée.
Nous remercions la FARDC pour avoir gardé, protégé les âmes qui ont été manipulées, saccagées par les ennemis de la paix. Parce que les 45 jours qu'ils ont vécu pour les nourrir, tout ça, c'était pas moindre.
Les FRDC appellent la société civile à accompagner ces ex-otages pour leur intégration dans la communauté. Le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1.
La bonne collaboration, c'est continuer à suivre de près ses compatriotes dans leur milieu. Donc, nous avons fait notre travail. Nous allons continuer à le faire avec vous ensemble dans la société. Mais en cas d'un cas suspect, vous êtes obligés pour mettre la main sur.
Parmi les 110 ex-otages se trouvent des habitants du territoire de Mambasa et d'Irumu en Ituri, ainsi que d'Eringeti et d'Oisha dans le territoire de Beni au nord Kivu. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Dans la province de l'Équateur, les journalistes de 13 radios locales ont clôturé jeudi dernier en Mbandaka une formation sur le journalisme sensible au conflit et à l'inclusion des peuples autochtones pygmées. Une initiative d'Internews en collaboration avec la dynamique des groupes des peuples autochtones, DGPA, l'USAID et la coopération suédoise et FIH 360. Le point avec Paul-Richard Malengela.
D'après le secrétaire exécutif de l'AMASEC, Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, la structure qui a organisé la formation mercredi et jeudi dernier, le projet vise particulièrement la réalisation et la diffusion des émissions de sensibilisation, lesquelles doivent aborder les problèmes particuliers des PA, mais aussi entrevoir des voies et moyens de les résoudre, a dit Peter Biako. Abordant la problématique des peuples autochtones à l'Équateur, le point focal du REPALEF et de la DGPA, deux structures qui encadrent les pygmées dans les territoires de Bikoro, Bolomba et Nguindé, a évoqué notamment leur faible scolarisation, faible revenu économique, faible connaissance en matière électorale et en rapport avec la nouvelle loi numéro 20/030 du novembre 2022 portant protection et promotion des droits des PA en RDC. Aussi, l'orateur Guylain Mbalé a mentionné leur discrimination, y compris le faible accès des pygmées de l'Équateur à plusieurs services sociaux de base. Ainsi, les 13 journalistes formés, dont cette femme, vont bientôt produire des émissions intégrant les aspects évoqués ci-haut, ce qui va susciter l'implication générale des peuples autochtones aux prochaines élections et l'amélioration de leurs conditions de vie, a conclu M. Peter Biako de l'AMASEC. Mbandaka pour Chamalengela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le départ accéléré de Kidal de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, pour fin octobre pourrait être compromis. Alors que la fermeture officielle du camp est prévue à la fin de ce mois, quasiment aucun des avions de la MINUSMA qui procède au rapatriement du personnel, notamment à Kidal, n'a pu voler hier vendredi, faute d'autorisation. Et puis, c'est ce samedi que se clôture à Yaoundé, au Cameroun, le congrès ordinaire du Fonds social démocrate SDF, le parti historique de l'opposition camerounaise, fondé en 1990 par son leader John Frundi, décédé le 12 juin 2023. Le SDF, fragilisé ces dernières années par des mauvais résultats électoraux et des batailles intestines, doit tourner la page de son président fondateur. Il s'agit de relancer un parti qui fut naguère la principale formation politique de l'opposition camerounaise.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'officier du bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO. Le major Hassan Keïra parle de la collaboration entre les casques bleus et les FARDC dans les actions visant à contribuer à la protection des civils dans l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Il s'entretient à Goma avec Sifa Maguru.
Major Hassan Keïra, bonjour.
Bonjour.
Nous avons entendu parler en Ituri de casques bleus de la MONUSCO qui auraient transporté des corps de personnes tuées jusque dans les villages. Cette information a été commentée de diverses manières par la population. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans quel village et dans quel contexte?
Le 18 octobre 2023, la MONUSCO a été informée d'un incident de tir dans la région de Dandro. Une patrouille de la MONUSCO a été envoyée dans la zone de l'incident. Les FARDC et le réseau d'alerte communautaire ont été également alertés et en arrivant sur le site de l'incident, il a été révélé que 3 personnes avaient été tuées par le groupe armé Codeco. La patrouille a déployé les véhicules blindés de transport de troupes pour sécuriser la zone et elle a effectué des patrouilles à pied et en compagnie des membres des familles pour récupérer les corps. La patrouille de la MONUSCO a aidé dans le transport des corps jusqu'au site de Tsukpa, situé suite à la demande des familles, des victimes et des habitants. Après avoir remis les dépouilles à leurs familles, la patrouille a poursuivi sa domination dans les zones environnantes afin d'assurer la protection des civils. De même, un incident de tir par un groupe armé a été rapporté à la MONUSCO le 22 octobre 2023 dans le village de Djuna, environ 2 km de Logo Tabka. Les habitants se sont réfugiés dans le camp des FARDC de Logo Tabka. Une patrouille de la MONUSCO RDB a été envoyée sur le site de l'incident. Les FARDC et le réseau d'alerte communautaire ont été engagés par la MONUSCO. Plus tard, une patrouille conjointe avec les FARDC a été menée dans la zone de Logo Tabka. Le village s'est avéré inoccupé car la plupart des villageois, surtout les personnes âgées et les femmes, et les enfants avaient déménagé dans la zone de Tché. La patrouille s'est ensuite rendue dans la zone de Tché où les civils se sont réfugiés afin d'assurer leur protection. Et dans le cadre d'une opération dirigée par la MONUSCO visant à maintenir la stabilité dans les régions de Djougou et Irumu, la MONUSCO continue de maintenir sa présence dans ce territoire en effectuant des patrouilles et en engageant des responsables clés pour sensibiliser la population locale, mettant l'accent sur la protection des personnes déplacées internes.
Merci pour cet éclairage sur la situation en Ituri. À présent, à Beni, la MONUSCO également travaille avec les FARDC pour renforcer la sécurité de la population dans la zone des Mamove, Rutshuru et Kichanga. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Oui, avec l'intensification actuelle des activités des groupes armés, surtout dans le territoire de Rutshuru et Masisi, la MONUSCO a déployé des éléments de sa brigade d'intervention dans cette zone. Elle mène des opérations mobiles pour assurer la protection des civils et fournir des couloirs humanitaires pour le passage en toute sécurité des personnes déplacées. La MONUSCO est résolue à mener à bien son mandat de protection de la population contre tout groupe armé. Par ailleurs, depuis l'intensification des combats à Kachanga, les soldats de la paix de la MONUSCO sont restés engagés aux côtés des populations déplacées. Ils ont fourni une assistance médicale à 9 civils blessés, dont une femme et 5 enfants.
Au sud Kivu, nous avons également appris qu'il y a eu des affrontements entre les groupes armés qui ont entraîné des dégâts humains et matériels dans les territoires des Kalehe.
C'était au 16 octobre 2023 où un affrontement entre deux groupes armés a eu lieu dans le village de Kosisa, entraînant la mort d'un combattant. Les groupes armés ont mis le feu à 11 maisons et une école locale a été également endommagée au cours des affrontements. Afin de protéger les civils, des patrouilles conjointes du PACAR EDB et du régiment des FARDC ont été menées dans la zone affectée pour maintenir la sécurité dans la région. La MONUSCO a travaillé avec les FARDC pour impliquer toutes les parties prenantes et résoudre le problème par un dialogue prioritaire afin de garantir la paix dans la région. Et puis la section d'engagement pakistaniste a patrouillé autour de Rotemba pour protéger les civils et sensibiliser surtout la population féminine locale à la protection des femmes et des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels et les procédures à suivre en cas de sillon.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'était notre invité, l'officier du bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO, le major Hassan Keïra, s'entretenait à Goma avec Sifa Maguru. Fin de ce journal qui a été préparé par Alain Irung et mis en onde par Alain Goy. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.